Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Galates. En fait, nous allons relire le même texte, mais nous arrêter sur un verset différent. Vous allez vite comprendre à la lecture pourquoi. Voilà, nous faisons donc lecture dans le livre de l'épître de Paul aux Galates, aux Celtes gaulois expatriés en Asie mineure, pensant qu'il y a peut-être du sang français dans cette épître. Et en tout cas, certainement, dans ce qui est dit, nous pouvons nous sentir concernés par rapport à la problématique posée de celle, dans toute cette épître, à quel point nous avons l'art de passer à côté de l'Évangile alors qu'il est là, qu'il nous a été présenté, l'art de sombrer ou de pencher soit vers une forme de légalisme, soit vers une forme d'antinomie, soit de vouloir être un peu nous-mêmes acteurs de notre salut de notre vie chrétienne à la place de Dieu, et donc en échange de cela de prendre un peu Dieu en chantage, de dire regarde Seigneur ce que j'ai fait pour toi, donc tu devrais faire ceci, ou l'art de relâcher les choses pour dire oh Dieu pardonnera, c'est pas grave si je me donne des libertés. Quand l'Évangile est là, et je pense qu'on a besoin de le réentendre dans sa beauté et dans sa splendeur. Alors nous reprenons un extrait de l'Épître aux Galates. Nous allons lire le tout dernier verset du chapitre 3 et les sept premiers versets du chapitre 4. Nous faisons donc la lecture de la parole de notre Dieu. Pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Galates chapitre 3, verset 29, à 4, verset 7. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu envoyait dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Et nous arrêtons là la lecture de la parole du Seigneur. Nous te prions à ce stade de ce culte, à ce stade de cette journée, à ce stade de nos vies. Nous te prions que ton Esprit Saint dont on parle, particulièrement ce matin, que cet Esprit Saint qui a conduit les choses et particulièrement conduit l'apôtre Paul à écrire cela, que ce même Esprit Saint aujourd'hui présent ouvre nos pensées et nous donne de recevoir ce qu'au travers de cette parole tu veux nous dire. Que Seigneur, tu nous attrapes là où nous sommes. Et peut-être ce matin sommes-nous tranquille, paisible, et avons-nous besoin d'être un peu troublés. Mais peut-être ce matin sommes-nous troublés, et peut-être ce matin même sommes-nous très inconfortables. Et peut-être ce matin avons-nous besoin particulièrement de comprendre l'attention que tu as donnée aux hommes et aux femmes que nous sommes, en nous donnant Jésus-Christ, en nous envoyant l'Esprit-Saint. Donne-nous, Seigneur, de saisir ce que Paul nous dit dans ses paroles, de les faire nôtres et de pouvoir connaître la transformation que l'Évangile de Jésus-Christ donne. Épargne-nous, Seigneur, de chercher notre propre justification. Épargne-nous de chercher à créer notre propre identité. Épargne-nous aussi de nous égarer, fatigués du chemin. Mais donne-nous, Seigneur, de nous laisser ressaisir par ton Esprit, interpellé par ta parole et transformé. Que Seigneur, ce matin, aucun de nous ne ressorte de la même façon qu'il est venu. Que Seigneur, ce matin, nous ressortions de ce temps de culte, les yeux levés vers toi, remplis d'espérance, connaissant la présence de ton esprit. Et nous te prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors dans ce texte, il y aurait... c'est pas toujours facile à suivre, d'ailleurs c'est du Paul. Là, dans cette épître, en tout cas, il passe d'un verset à l'autre et on se demande un peu où est-ce qu'il nous mène. Alors, en guise de tentative d'application, de compréhension, j'aimerais juste relever quatre éléments de ce texte que nous avons lu. Quatre éléments, tout simplement pour comprendre, chercher à comprendre ce qui nous est dit ici. Tout d'abord, et c'est pourquoi j'ai voulu mettre le verset 29 avant de... Sinon, j'allais rester juste à partir du verset premier. Le verset 29, en fait, nous dit quoi ? Il nous dit qu'en tant que chrétienne et chrétien, lorsqu'il dit, si vous êtes à Christ, si on est à Christ, on est chrétienne ou chrétien, n'est-ce pas ? Je rappelle que être chrétien, c'est suivre Christ, appartenir à Christ, c'est être chrétien. Hein, on suit Christ. Eh bien, Paul dit que si nous sommes chrétiens, ou en tant que chrétiens, il dit, vous êtes des fils d'Abraham. Alors, c'est pas peu dire dans le contexte dans lequel nous sommes ici. Rappelons-nous qu'on a affaire ici à une tension, voire un détournement dans l'Église, d'un détournement judaïsant. C'est-à-dire qu'on a, un détournement ici de personnes qui se revendiquent de l'héritage d'Abraham, qui se revendiquent des fils d'Abraham, et qui sont en train de dire aux païens, écoutez, vous devez faire tout comme nous, donc revenir en arrière par rapport à, à l'avancée de l'Évangile. Vous devez devenir juif, vous devez donc être circoncis, vous devez suivre la loi, etc. Là. Et alors, évidemment, Paul est en train de prendre le contre-pied et de dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que le monde doit devenir juif, c'est qu'il y a une promesse, il y a un mystère qui est donné, que tout ce que Dieu a fait dans l'histoire de son alliance, l'œuvre qu'il a fait tout d'abord avec un homme, puis qu'il a fait au sein d'une famille, puis au sein d'un peuple, puis au sein d'une nation, maintenant va dans le monde entier, dans toutes les nations. Et il n'est pas dit qu'à chaque fois on revient en arrière. Il n'est pas question pour la nation d'Israël de devenir le peuple, de devenir la famille, de devenir Abraham. Il est question de voir l'Évangile se répandre. Et le mystère ici, c'est de dire qu'à partir de maintenant, par l'Évangile, ceux qui ont l'héritage venant d'Israël, juifs, et ceux qui ne viennent pas d'Israël, vont avoir un même héritage. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Il n'est pas question ici de revenir et de rentrer en arrière. Il est question d'aller de l'avant et ensemble, juifs et non-juifs, de cheminer pour la cause de l'Évangile. Alors quand Paul ici dit à des non-juifs que si vous êtes à Christ, vous êtes des enfants d'Abraham, je pense que ça provoquait des réactions. Ça provoquait des réactions, voire des tensions. Et pire encore, lorsqu'il dit « Et donc, vous êtes héritier. » Je ne sais pas combien de vous ont connu les situations familiales d'héritage. Je sais que nous, on s'en approche. Et je vois déjà venir les problèmes. Il y a déjà beaucoup de problèmes lorsqu'on parle d'héritage entre frères et sœurs. Mais vous imaginez quelqu'un qui n'est pas de la famille et à qui on dit... En fait, tu as le même héritage. J'ai jamais connu la scène, mais je peux imaginer quelqu'un qui lit un testament subitement et que dans le testament, il est dit, en fait, ce n'est pas vous les enfants qui serez héritiers, c'est un tel et un tel. On voit des films là-dessus et on peut imaginer la réalité là. Mais je pense que ce que Paul dit est à la fois extrêmement troublant pour certains qui veulent se revendiquer tout et extrêmement fabuleux pour les autres. Parce que franchement, de savoir qu'on n'est pas naturellement d'un certain héritage et de savoir qu'on y a droit, c'est quand même assez fort. Je crois que Paul est en train de dire ici que en Christ, par la dynamique de l'Évangile, par la foi, vous et moi, même si nous n'avons pas de racines d'Israël, nous sommes des enfants d'Abraham et nous sommes héritiers. Deuxième élément de remarque, Il parle d'enfants, alors il en parle à plusieurs reprises, mais je m'arrêtais sur celui-là. Il parle d'enfants, et il dit que ces enfants ont un statut particulier d'enfant, et les distingue du monde adulte, sachant qu'ils deviennent adultes par un temps marqué par le père. Nous, de nos jours, c'est la loi qui déterminera entre un mineur et un majeur, mais dans les temps, apparemment, c'était par décision du père de dire à partir de maintenant, mon enfant, tu deviens un adulte. Et ça veut dire des responsabilités, ça veut dire beaucoup de choses ici. Eh bien, ici, Paul est en train de rappeler cette règle, cette règle commune à l'ensemble des personnes ici, et de rappeler donc la réalité de l'enfant qui est différente de celle de l'adulte, et que ce passage au monde adulte est une décision du père. Et il enchaîne pour montrer que maintenant on est dans une réalité spirituelle. Il dit que le temps marqué, Paul dit qu'il y a un temps marqué, alors le temps marqué par le père dans la vie familiale devient le temps marqué par le père céleste, et le temps marqué, c'est le passage de l'enfance au statut d'adulte, et ici il s'agit de la venue, de l'accomplissement de l'évangile en Jésus-Christ, c'est-à-dire, si j'ai bien compris le texte ici, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une double dynamique de passage de l'enfance au monde adulte ici, c'est pour l'histoire du peuple d'Israël et du peuple juif jusqu'à la venue de Jésus-Christ, parce que jusque-là ils étaient sous la loi, maintenant ils comprennent qu'en Christ ils deviennent une autre réalité. C'est aussi pour des païens qui se convertissent, et au moment où ils se convertissent, ils deviennent adultes ici. Et c'est une façon de dire, vous les Galates, rappelle Paul par les Galates, vous les Galates légalistes, eh bien, en réalité, vous êtes encore des enfants. En réalité, vous êtes encore au stade d'enfant, et en fait, vous êtes soumis au tuteur de la loi. Eux qui voulaient se mettre en avant, eux qui voulaient se dire émancipés, qui voulaient se dire fils d'Israël, fils d'Abraham, et qui voulaient se dire c'est nous qui maîtrisons les choses, Paul est en train de dire en réalité, en vous détournant de l'évangile, vous vous remettez au statut d'un enfant qui n'aura plus, il le dit très bien ici, un enfant, même s'il est héritier, en réalité, tant qu'il est enfant, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire une marche arrière, et qui de nous ferait cela si on y pense? C'est un peu une interpellation de Paul. Et quatrième élément de remarque dans ce texte, c'est que Jésus est venu. Jésus a tout accompli. Et on sait que lorsqu'il a tout accompli, il est question particulièrement de la croix, de l'évangile ici, qui fait qu'on peut passer du statut d'enfance au statut d'adulte. Et là, et le vocabulaire sur lequel j'aimerais particulièrement m'arrêter, il dit que par cela, par la croix, par l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien, vous et moi pouvons devenir fils adoptifs. C'est précisément le vocabulaire employé ici. Il ne dit pas, à d'autres textes, il est question de devenir enfant de Dieu. Ici, le vocabulaire employé, c'est que nous sommes des fils adoptifs, c'est-à-dire que nous sommes dans une procédure et nous devenons fils à part entière, adoptif d'un père. Jésus est venu, il a tout accompli, il a accompli la Pâque, et en français, il faut distinguer Pâque sans S et Pâque avec S. Il est venu accomplir la Pâque juive, puisqu'il a été l'anneau de Dieu qui a donné le sacrifice ultime, mais il a dépassé la Pâque par sa Pâque en ressuscitant en ce matin de Pâques. Puis il est monté au ciel, on l'a évoqué dimanche dernier, il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, dans le cadre de la Pentecôte, eh bien, l'Esprit Saint nous est donné et atteste dans nos cœurs que nous sommes fils adoptifs. Christ, par son œuvre, fait de nous des fils adoptifs. L'Esprit Saint l'atteste dans nos cœurs pour dire que nous ne sommes ni esclaves, si nous l'étions, nous ne le sommes plus, ni enfants encore soumis à des tuteurs, mais adultes, pleinement fils adoptés. Alors, j'ai envie de dire, Paul ici est en train de dire aux Galates, en vous remettant sous la loi, en réalité, vous vous remettez sous tutelle, votre légalisme vous remet en arrière dans un statut d'enfant, et en fait, la réalité, c'est que vous ne devenez pas mieux que les païens. devant la réalité de l'adoption ici de l'évangile, vous vous mettez au rang des païens. Il ne peut pas être content d'entendre ça. Mais c'est ce que Paul est en train de dire. Vous êtes, parce que vous êtes tous asservis aux principes élémentaires du monde. C'est-à-dire qu'ultimement, votre légalisme ne vaut pas mieux que l'antinomisme païen. Et d'ailleurs, on verra ça plus tard, chapitre 5, mais juste pour en donner un léger avant-goût, en fait, ce qui se passe ici, c'est que, alors que Paul parle aux Galates, et rappelons-nous que les Galates ont un sérieux problème avec le légalisme, c'est intéressant de voir que lorsque nous lisons la description que Paul fait des principes élémentaires de la chair, qui s'opposent aux fruits de l'esprit, nous y voyons les mêmes œuvres. C'est qu'en réalité, si on n'est pas renouvelé par l'Esprit Saint, et s'il ne voit pas le fruit de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair qui se manifestent. Or, les œuvres de la chair, si on regarde de près, c'est ce qu'on fera quand on viendra au chapitre 5, on va se rendre compte que mon légalisme comme mon antinomisme, en fait, produisent les mêmes effets. Ça produit les œuvres de la chair. Et donc, Paul est en train de dire, en vous mettant sous la loi, en revenant en arrière, en vous privant de l'évangile, en réalité, vous vous mettez au même rang que les païens. En se remettant donc sous la loi et en se privant de passer du statut d'adulte tel que fixé par le Père, ils se privent certes du fabuleux fruit de l'esprit, et on aura l'occasion d'y revenir, mais ils se privent aussi de cette fabuleuse réalité de l'esprit en eux qui leur donnerait de voir Dieu tel qu'il est véritablement pour eux, c'est-à-dire leur Père. Ils sont en train de se priver de cette fabuleuse réalité du Dieu qui est leur Père, du principe même qu'il est leur Père. En fait, je suis tenté de dire, dans le prolongement de ce que nous avons évoqué depuis le début de cette lecture dans l'Épître aux Galates, Je suis tenté de dire que les Galates à qui Paul s'adresse ont manqué, dans le début de l'Épître, Paul révèle qu'il manque les fondations. Il se repose sur les mauvaises fondations. Et que Paul, lui, est celui qui peut revendiquer ces fondations parce qu'il est lui celui qui a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, qui a eu un appel apostolique, un appel à poser les fondations. Lui, Paul, peut revendiquer, dire « C'est le Saint-Esprit qui me donne de vous dire ces choses-là. Vous, vous évacuez cela pour qui sait quelle soi-disant tradition que vous avez ici. Vous êtes en train de manquer les fondations. » Et puis plus tard, il dit « Vous êtes en train de manquer les Écritures parce que vous étudiez les Écritures, mais vous n'y voyez pas le Christ. Donc vous passez systématiquement à côté de la Bible que vous lisez tous les jours et avec ardeur. Vous passez à côté, vous manquez les Écritures. » On a vu la dernière fois qu'il manque Pâques. Il manque la célébration de la Pâque parce que tout en voulant revenir aux fêtes d'Israël, tout en voulant célébrer la Pâque juive, ils n'ont pas vu que l'agneau immolé est Jésus-Christ. Et ils passent complètement à côté de la réalité de l'Évangile ainsi. Eh bien, j'ai envie de dire maintenant, les Galates manquent Pentecôte. Les Galates sont en train de manquer la dynamique et la réalité que nous voulons célébrer en ce jour de Pentecôte. Et plus Paul avance, plus j'ai envie de dire, il est temps que celles et ceux à qui Paul écrit découvrent, redécouvrent, comprennent, reviennent sur la base de l'Évangile qu'ils ont perdu ou qu'ils ont oublié. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter dans les instants qui viennent maintenant, de nous arrêter plus particulièrement dans la dynamique de l'Évangile sur ce qui nous est dit du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, Pentecôte oblige, hein, il fallait bien qu'on s'y arrête là-dessus. Donc c'est un petit peu volontaire que j'ai traîné sur ces deux, trois versets. Je me suis dit que ça serait intéressant qu'en ce jour de Pentecôte, on y revienne ici. Je relis à partir du verset 4. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Il est assez clairement question ici, ce serait dur de ne pas le voir, il y en a qui trouvent moyen de ne pas le voir, mais il est quand même difficile de ne pas voir ici la réalité du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. va pas faire un cours de théologie, je serais très mal placé pour cela, mais j'ai écouté récemment le cours donné par Pierre Sauvane sur la Trinité. Je vous le recommande si vous pouvez le suivre, parce qu'il a l'art de dire les choses compliquées de façon simple. Et j'étais tenté d'en reprendre des extraits, mais non. Ce que je veux relever ici, c'est que nous avons là l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre de Jésus est une œuvre de rédemption. Je rappelle que l'œuvre de rédemption, initialement parlant, c'est une œuvre de rachat. On paye une dette et on paye particulièrement, ça c'était approprié, au rachat d'une veuve qui, ayant perdu son mari, n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins. Et le droit de rédemption, c'était un membre de la famille immédiate qui devait racheter, payer les dettes et éventuellement aller plus loin en épousant la femme en question de façon à ce qu'elle garde un héritage et une lignée sur ce que le défunt avait laissé derrière lui. Eh bien, Jésus-Christ rachète nos dettes, paye nos dettes et nous donne de retrouver une lignée ici. Et ainsi, l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption, nous donne le statut de fils. C'est fort. Et c'est Dieu, le Père, qui envoie dans nos cœurs le Saint-Esprit. Et il est clairement dit, le Saint-Esprit qui est celui du Fils de Jésus. Celui dont Jésus dira qu'il nous envoie l'autre paraclète, le Saint-Esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, la seule petite partie technique, on l'a lu tout à l'heure, c'est pourquoi ici on voit que le Saint-Esprit procède, c'est-à-dire vient du Père et du Fils. On en a un exemple ici, comme quoi le Saint-Esprit procède du Père et du Fils ici. En parlant de Pentecôte, quelqu'un que je cite régulièrement, Pierre Courtial, dit ceci. « Ainsi aussi, non pas malgré l'ascension, mais grâce à l'ascension. Jésus-Christ a-t-il pu dire aux disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'ère. » Et il précise l'ère nouvelle qui est maintenant commencée. Ainsi, quand Jésus dit « Je suis avec vous » et lorsqu'il monte à la droite du Père de l'Ascension et qu'il nous envoie son Esprit Saint, Jésus dit qu'il est avec eux, dans l'Esprit Saint, l'autre lui-même. Et c'est cet Esprit Saint qui atteste que nous sommes bel et bien fils adoptifs et qui nous donne de crier « Abba, Père ». Il y a là une splendide réalité, celle d'une adoption. Et je rappelle que le terme ici, c'est une adoption en tant que fils. Selon certains commentateurs, je n'ai pas fait moi-même la recherche poussée à ce sujet, mais selon l'apôtre Paul, ou plutôt le commentateur, seul l'apôtre Paul emploie ce terme, faisant plus que probablement référence au code romain. Selon la loi romaine, une adoption garantit pour l'enfant adopté un droit au nom et à la propriété du père adoptif. Dès l'instant où un enfant est légalement adopté, il entre dans le droit absolu et rien ne pourra s'y opposer, pas même les enfants légitimes. De même, le père reçoit les pleins droits et devoirs d'un père. Et là, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais on peut essayer quand même d'imaginer les choses ici. Qui est susceptible d'être adopté? Généralement, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, qui n'a plus de parents. Ou c'est quelqu'un qui a été sérieusement maltraité par les parents. C'est quelqu'un donc à qui il manque cette structure. Et c'est quelqu'un qui déjà va avoir du mal à grandir. Et pensons que dans les temps bibliques, la veuve et l'orphelin avaient une attention toute particulière aux yeux de Dieu. Parce que c'était, on était loin, et même aujourd'hui, quand on voit les difficultés que ça peut représenter, mais on a des aides sociales. On peut avoir du personnel, on peut avoir des garanties, des protections. Il n'y en avait aucune à l'époque. Ça voulait dire que perdre ses parents, ou pour une femme, perdre son mari, ça voulait dire une grosse probabilité de se retrouver mendiant, de se retrouver dépourvu de tout, parfois même dépourvu d'identité. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, donne un nom, donne un héritage, donne une identité. Et cela veut dire aussi qu'a priori, s'il est en train de parler de celles et de ceux qui, en Christ, sont adoptés, cela veut dire que, et c'est peut-être là l'exercice un peu difficile pour nous, c'est de dire, nous devons réaliser qu'en réalité devant Dieu, nous sommes comme des enfants sans parents, comme des enfants sans statut, comme des enfants sans rien, sans héritage. C'est de là de réaliser la misère dans laquelle on peut se trouver. Pour certains, c'est plus clair que pour d'autres. Mais on a besoin de ça. Et c'est pourquoi la difficulté que Jésus avait avec certains des pharisiens, qui disaient, nous sommes des fils d'Abraham. Et que Jésus les reprenait en disant, pas autant que vous le pensez. Spirituellement parlant, et c'est là les béatitudes aussi, spirituellement parlant, nous devons réaliser à quel point on doit réaliser combien on n'est vraiment rien par nous-mêmes. Et qu'on a besoin d'être complètement, de trouver une complète identité en notre Seigneur. Dieu en la personne du Père, Dieu en la personne du Fils, Dieu en la personne du Saint-Esprit, fait de nous, si vous êtes à Christ, verset 29, des héritiers dans la descendance d'Abraham, et du fait que les temps sont accomplis en Jésus-Christ, fait de nous des fils adoptifs. Et j'emploie encore ce terme parce que c'est le terme du texte qui est ici employé. Et Paul, en fait, dit que en Christ et par Christ, nous avons ce statut, alors que les Galates ont sombré dans le légalisme, alors même qu'ils seraient et qu'ils se disent certainement enfants légitimes, et qu'en réalité, en fait, ils sont sous tuteur. Alors, c'est Pentecôte aujourd'hui. C'est Pentecôte, nous voulons nous rappeler que c'était la fête des semaines, la fête des 50 jours, la fête des premiers fruits de la moisson. C'était pour cela que les disciples étaient rassemblés en ce jour de la Pentecôte, et cela devient la fête de l'accomplissement de la promesse faite par Jésus quand il dit « Je serai avec vous par le don du Saint-Esprit, ouvert dorénavant à toutes les nations ». Alors je serais tenté de dire aujourd'hui, vu le thème que nous avons ici et vu le sujet que nous abordons, je serais tenté de dire que Pentecôte, c'est la fête où nous prenons conscience et entrons au bénéfice de notre adoption. Et les Galates manquent ça. Les Galates passent à côté de cela. L'Évangile est là et il passe à côté d'une multitude de bienfaits. Et Paul leur rappelle ces choses afin qu'ils reviennent de leur fausse route. Alors j'arrête là pour le texte et la question maintenant, qu'est-ce que cela implique pour nous ce matin? Qu'est-ce que cela peut bien nous apporter? Je vais te poser la question tout d'abord, sommes-nous des fils adoptifs? Alors là, je devine certains questionnements chez certains d'entre nous et j'ai mis dans mes notes, vous savez, quand je veux faire attention à quelque chose, je mets un triangle avec un point d'exclamation dedans. C'est ce genre de panneau, quand on a à dire « attention », il y a quelque chose sur lequel prêter attention. Voici mon point ici. À la question « sommes-nous des fils adoptifs ?» Peut-être certains d'entre nous, ce matin, entrent dans un grand doute et disent « Samuel, je ressens rien ce matin. » Tu es en train de parler du Saint-Esprit qui atteste ces choses. Franchement, je ne sais pas si je peux dire ce matin que j'entends, je ressens le Saint-Esprit qui me dit une telle chose. Je suis peut-être le seul, je ne sais pas, mais je pense que certains d'entre nous, on se questionne. Alors la question qui vient vite derrière ça, c'est de dire, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en moi? Est-ce que ça veut dire donc que je ne suis pas adopté? Et là, je dis tout de suite, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ça veut dire parce que ce ne doit pas être cette question qui nous préoccupe ici. Pour illustrer mon propos, j'aimerais reprendre un autre texte de l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 12 à 14. Voici ce que Paul dit. « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Alors la question à nous poser ce matin, pour savoir si nous sommes des enfants adoptifs, la question à nous poser ce matin, c'est comment je regarde l'Évangile? Quand j'entends l'Évangile, Quand j'entends tout ce qu'on entend à la chapelle de Neil, dimanche après dimanche, parce que je crois qu'on y revient assez souvent sur cette thématique ici, quelle réaction cela provoque en moi? Est-ce que cela provoque en moi un sentiment que c'est un message complètement fou, qui est insensé, c'est une bêtise, c'est un mythe, c'est de l'idiotie, c'est quelque chose pour lequel je ne peux pas accorder de crédit et de valeur? Entre nous, je pense que si c'était ça qu'on se dit, nous ne serions probablement pas là plus longtemps que 2-3 semaines. Parce qu'on le dit tellement souvent que les gens ils se fatiguent. Si ce n'est pas leur tasse de thé, si ce n'est pas quelque chose auquel ils croient, ils ne restent pas dans une église comme celle-là, parce qu'on en parle trop souvent. Or, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que ce serait un critère comme quoi l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, parce que cela veut dire que j'ai un raisonnement dit de l'homme naturel, où je ne veux tout simplement pas entendre ces choses-là. Je n'y mets pas ma base, je n'y mets pas mon critère ici. Si par contre l'évangile a du sens pour moi, ce dont Paul parle depuis le début de cet épître, si par exemple le rôle que l'apôtre Paul va jouer en tant qu'apôtre, fondateur, celui qui nous révèle les écrits sacrés, celui qui parle de la part de Dieu et qui donne les fondations de l'Église, si, comme on l'a vu aussi, la Bible et l'Écriture sainte ont pour nous une vraie valeur, une vraie importance en disant « Le Seigneur nous parle par sa parole », si la réalité de Pâques, si je peux dire « Christ est mort pour moi et il est ressuscité et il me prépare une place parce que je sais que ce ne sera pas par mes propres œuvres, mais par la sienne, ce n'est pas par mon propre nom, mais par le sien, c'est en Jésus-Christ en qui j'ai mis ma confiance et en qui je place ma foi ». Et si la réalité de l'ascension, de savoir qu'il siège à la droite de Dieu, qu'il intercède pour moi, et donc dans la suite logique de la Pentecôte où il dit « Je suis avec vous tous les jours », si cela s'est marqué par une réponse de foi en Christ, quand je dis une réponse de foi, j'y reviens dans un instant, ça ne veut pas dire que c'est des choses que l'on croit, auxquelles on adhère, alors l'enjeu n'est pas de ce que je ressens ou pas ce matin. Pas si vous voyez la nuance. Je ne suis pas en train de parler du fait que l'on peut ressentir les choses, je suis en train de parler est-ce qu'on les croit. L'enjeu est l'acte dont Dieu et Dieu seul, le Père, est l'origine, dont Dieu offre la garantie. Dieu s'y est engagé et Dieu n'y reviendra pas. Si Dieu nous a donné l'évangile, il est là. Si l'enjeu est l'acte dont Christ, le Fils, est le Rédempteur, l'enjeu est dans le fait que le Saint-Esprit en atteste l'authenticité. Bien sûr, le ressentir serait un gigantesque plus. Et il nous arrive d'avoir un élan, de sentir sa présence, de se sentir dans la présence de Dieu, savoir conduit par Dieu, c'est plus. Mais rappelons-nous que nos sentiments peuvent être très trompeurs. Rappelons-nous que nos sentiments peuvent nous égarer. Par contre, l'acte authentique de Dieu, lui, est on ne peut plus fiable. Et il est possible que je doive prendre cet acte pour acquis par la foi. C'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est possible ce matin que je ne ressente pas les choses comme telles, mais que j'y crois sans les voir, que j'y crois sans en avoir un effet dans mes sentiments. Et c'est pourquoi je pose la question de ce matin de dire, c'est par la foi. Par la foi, qu'est-ce que cela change de voir Pentecôte ici? Est-ce que par la foi, parce qu'il y a un acte authentique de l'œuvre du Seigneur, parce qu'il y a un acte authentique du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, est-ce que par la foi, je peux dire que oui, je suis un fils adopté? Si ce que j'ai dit précédemment, on peut dire oui, même si c'est un oui imparfait, si je peux dire « Christ est mort pour moi », je sais qu'il y a du travail à faire dans ma vie. Si je peux dire « Christ a pardonné mes péchés », si je peux dire « Christ m'a renouvelé, m'a interpellé, Christ me conduit », alors je peux dire avec certitude que je suis un enfant adopté, un fils adopté. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous de comprendre cette partie de Pentecôte? Je vous propose deux applications, l'une concernant la vie à venir et l'autre concernant ma réalité présente ici. La réalité que l'Esprit Saint me dise certifie que je suis fils de Dieu, fils adopté, eh bien, c'est une garantie qui, je sais, ne sera jamais enlevé. Si je suis adopté, je suis adopté. Je porte le nom du Seigneur. Et ce qui m'est venu à l'esprit, alors, c'est peut-être lointain, voire jamais entendu pour la majorité d'entre vous, je ne sais pas. Mais avez-vous déjà entendu parler de ce que l'on appelait « evangelism explosion » ? Alors, le terme en français, je n'ai jamais voulu le traduire, puisque ça fait un évangile qui explose, ce n'est pas l'idée ici. Mais l'idée, c'est un concept d'évangélisation fait par un pasteur réformé aux États-Unis qui s'appelle James Kennedy, qui était pasteur de Coral Ridge Presbyterian Church, une cathédrale en Floride, et qui avait lancé à partir de rien un projet pour rendre accessible le partage de l'évangile. Et à l'époque, c'était très connu parce que beaucoup d'églises ont mis ça en pratique, en application. Et en fait, la petite astuce, c'était de commencer avec un pin. On dit pin en anglais, pas pins, c'en est un seul. Mais on met un pin sur notre veste avec deux points d'interrogation. Et ça marche à tous les coups. Vous baladez avec votre pin sur votre chemise avec deux points d'interrogation et ça ne va pas prendre longtemps pour quelqu'un vous regarde et dit « C'est quoi ces points d'interrogation ?» Et là, c'était parti pour personne. C'était parti. Ah, mais ça, ce sont les deux questions les plus importantes et fondamentales de l'existence. Vous voulez que je vous les pose? Et la première question, c'était de dire est-ce que, ce que je ne souhaite pas du tout, mais si vous deviez mourir dans la minute qui vient, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Alors, ça marche quand on a une petite culture chrétienne quand même. Je pense que dans beaucoup de cas ici, ça ne marcherait pas du tout, de quoi tu me parles, mais ça marchait très bien en Floride. Et donc, de dire, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Alors, on voit des gens qui disent, oui, bien sûr. D'autres personnes, peut-être, etc. Et en tout cas, ça mène assez rapidement sur la deuxième question. Parce que les gens ne vont pas dire, non, je ne vais pas au ciel. S'ils n'en sont pas sûrs, les gens ne vont pas trop dire ça. La deuxième question, c'est, en fait, juste pour mettre une clarification, Si, encore une fois, je ne souhaite pas, mais si vous deviez mourir maintenant et que vous arriviez à la porte du ciel et que vous ayez ici soit un ange, soit une personne même de Jésus-Christ qui vous dit pour quelle raison devrais-je vous laisser rentrer dans mon ciel? Qu'est-ce que vous diriez? Et là, c'est très révélateur. Je me souviens une fois avoir fait ça en faisant du porte-à-porte dans un lotissement de mobile home et je tape à la porte, je vois une dame répondre, on lui pose les questions. Et la dame qui me dit bien sûr je vais au ciel, on lui pose la deuxième question, elle dit je joue de l'orgue à l'église. Et là on commence à comprendre quand les gens répondent, souvent les gens disent j'étais actif quand j'étais jeune, et maintenant vous allez où? Maintenant j'ai plus le temps, etc. Là. Et de réaliser qu'en fait l'évangile est un cadeau, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et il y avait une petite façon d'amener les personnes, bien faite d'ailleurs, franchement, peut-être on pourrait le mettre, ne serait-ce que pour avoir une ligne directrice dans la façon dont on partage l'évangile. Mais pourquoi je vous dis ceci? Parce que je crois que le jour où nous nous trouvons à la porte du ciel, si cette question nous est posée, parce que je crois que théologiquement parlant, pas sûr qu'on aille à la porte et qu'on dise porte fermée, vous repartez. Ce sera, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Mais on pourrait imaginer de dire, si la question nous était posée, je crois qu'on pourrait dire, mais j'ai un certificat d'authenticité par le Saint-Esprit qui dit, je suis le Fils du Père. Je rentre à la maison et personne et rien ne peut m'en empêcher. Et je pense que c'est important de se dire ça en ce jour de Pentecôte. De se dire, si je suis un fils adoptif, je sais qu'il y a une perspective, quelle que soit l'existence que je vais avoir, je sais que je vais rentrer un jour dans la maison du Père et que rien ne pourra s'y opposer. Mais dans la vie concrète de tous les jours, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on réalise que cela veut dire que nous portons le nom de Dieu le Père? On porte déjà le nom de Jésus-Christ en tant que chrétien, je l'ai évoqué tout à l'heure. Quand on dit que l'on est chrétien, on porte le nom de Christ. Mais ça veut dire qu'on porte aussi le nom du roi des rois, du tout-puissant créateur, et qu'il pose son nom d'authenticité sur nous, et qu'il nous accorde le droit de citer dans sa maison et l'héritage qui va avec. Waouh ! Ça veut dire que rien ne peut s'y opposer. Pas même la porte du séjour des morts. Si par hasard, pas par hasard, excusez-moi le terme, mais si dans notre existence, et peut-être c'est le cas en ce moment, si je traverse des temps vraiment difficiles, que j'ai même l'impression d'être confronté à des puissances qui me sont extérieures, ça peut arriver, de savoir que je suis le fils du Dieu Tout-Puissant de savoir que pas un seul cheveu de ma tête ne peut tomber sans qu'il y soit. De savoir que je suis dans les mains du Dieu Tout-Puissant Créateur et qu'il n'y a rien au-dessus de lui. C'est le nom que m'est donné avec ce statut de fils adoptif. Ça peut faire la différence dans notre existence. Ça veut dire aussi que nous sommes sous son éducation. On sait que des enfants qui n'ont pas de parents ou qui sont à la rue n'ont pas d'éducation. On sait aussi que beaucoup de gens devraient avoir un peu plus d'éducation, mais là, d'autres textes nous parlent à quel point Dieu reprend ses enfants. Dieu nous corrige. Ce n'est pas toujours plaisant, mais parfois les épreuves que nous traversons devons nous les comprendre comme une correction. Et une correction qui a un but pédagogique, qui a un but de faire de nous des enfants qui grandissons et devenons des adultes. C'est fabuleux de se dire qu'en tant qu'enfant adoptif, on est dans le programme divin éducatif. Et que le Seigneur, ce qu'il a commencé en nous, va le parfaire. Il va faire en sorte qu'au moment où nous rentrerons dans sa maison, tout sera accompli, l'éducation sera à la perfection. Cela veut dire aussi, pour prendre un autre exemple, que où que nous soyons aujourd'hui, je fais allusion à une parabole dont j'ai souvent parlé déjà dans ce épître aux Galates, ça veut dire qu'il y a toujours l'occasion de revenir. Ce Père-là aura toujours la porte ouverte. Maintenant, porte ouverte ne veut pas dire reviens, fais ce que tu veux comme avant, reviens sans régler les problèmes. La porte est ouverte pour que nous puissions aller à la table du festin. Ça veut dire aussi que ce Père pédagogue va peut-être nous faire travailler la notion de repentance. Mais n'est-il pas bon d'être dans les mains du Dieu vivant, dans le sens fils et dans le sens pédagogique, dans le sens de l'éducation, etc. Et j'ai envie de dire, si vous voulez aller plus loin avec ça, reprenez les évangiles, rien que les évangiles, plus bien sûr si vous voulez, mais commencez avec ça. Et regardez à chaque fois que Jésus fait allusion au Père. Et on peut se dire, ce qui est dit du Père pour ses enfants est bon pour nous. Et là, si on fait ça cette semaine, je pense qu'on peut ressortir avec les batteries bien rechargées à bloc, de se dire, voilà l'amour du Père, qui d'ailleurs nous a tant aimés, qui a même donné son Fils. Il ne le fera pas avec nous, il l'a fait avec son Fils, le vrai, légitime, le seul, légitime, naturel, Jésus-Christ. Nous sommes là, adoptés dans sa présence ici. Et je termine en disant qu'en évoquant cette réalité de la Pentecôte, que l'Esprit atteste en nous que nous sommes fils de Dieu, cela veut dire que on peut prier notre Père. On en a entendu une très belle démonstration tout à l'heure dans la prière d'intercession. Et on peut aller à l'infini dans le déroulement de cette prière que Jésus nous apprend. Mais est-ce qu'on réalise qu'on peut se tourner dans la prière? Est-ce qu'on réalise qu'on peut être dans le plus secret de nos cœurs, le plus secret fermé de nos chambres et prier le Père en étant garanti de son écoute et de se tourner vers celui qui se déclare être notre Père? Si je me souviens bien, parce que ça fait déjà longtemps que je ne l'ai pas vérifié, mais je le lance, si je me trompe, revenez me voir. Mais je crois bien que dans le grec, c'est Père le nôtre. Et d'ailleurs, toute la liste ainsi commence souvent par le verbe. Ça veut dire en effet qu'on peut prier le Père qui, dans son amour et dans sa pédagogie, va sanctifier son nom, va réunir, qu'on peut être dans le chemin de sa volonté, qu'on peut dépendre de lui au quotidien, être au bénéfice de sa grâce et être un agent de grâce dans ses mains. Et même face au péril et face à l'épreuve, face à tout ce qui peut nous venir, nous donne de pouvoir garder les pieds fermes sur le rocher qu'il est pour nous et nous donne d'être délivrés. Il y a beaucoup d'applications dans notre vie si on regarde que le fait que nous sommes adoptés, nous portons le nom du Père et qu'on a une entrée directe dans sa présence. Alors je nous laisse avec Cette citation, là aussi, c'est du déjà vu, mais c'est bon de le réentendre. Moi, j'ai besoin de le réentendre, alors je me dis peut-être vous aussi, dans ce livre dernier sorti de Saint Ferguson en français, Christ et ses bienfaits. En fait, c'est dans l'introduction, c'est Tim Keller qui cite Ferguson ici, dans son introduction, mais je relis ça et je vous laisse avec cette parole. L'Évangile est venu pour nous délivrer du mensonge du serpent. En effet, il révèle, derrière la venue et la manifestation du Christ et sa mort pour nous, il révèle donc l'amour d'un Père qui nous donne tout ce qu'il a. D'abord son Fils pour mourir pour nous et ensuite son Esprit pour vivre en nous. Il n'y a qu'un seul traitement véritable au légalisme, comprendre et goûter à l'union avec Jésus-Christ lui-même. Cela nous conduira à un nouvel amour pour la loi de Dieu. Amen. Seigneur, merci d'être venu à nous. Merci d'être venu à nous alors que nous brillons par notre rébellion. Nous sommes des enfants rebelles. Et en réalité, nous sommes des enfants paumés. En réalité, nous nous croyons forts, grands, brillants, intelligents. Et plus on se compare à toi, plus on réalise combien on est bon à se taire et à nous laisser émerveiller par ta personne, par ta présence. Seigneur, pour un certain nombre d'entre nous, en fait même pour tous, mais plus pour certains que d'autres, quand on parle de Père, l'image est bien souvent terriblement faussée. Pour certains même, de prier notre Père avant de comprendre qui tu es, c'est une prière très difficile à faire parce qu'on a une image dévastatrice ou en tout cas faussée. Ô Seigneur, donne-nous de te voir, toi le Père, celui qui nous aime, celui qui va jusqu'à donner son Fils pour nous adopter, pour nous inclure dans la famille, pour nous offrir l'héritage, pour nous donner d'être accompagnés, éduqués et préparés, pour pourvoir à chaque étape de nos vies, de nos besoins, et la liste est longue. Merci Seigneur. Tu n'avais pas besoin de faire cela, mais tu nous l'offres. Et nous voyons là ta grâce. Seigneur, peut-être ce matin, on ne ressent pas grand-chose, mais ta parole est là. Et Seigneur, peut-être ce matin, ai-je besoin de revenir vers toi. Peut-être ce matin, ai-je besoin de venir déposer à tes pieds ce qui occupe trop de place dans mon cœur, ce qui m'éloigne de toi. Et dans ce cas-là, Seigneur, que ton nom soit sanctifié en moi. Sanctifie-moi, lave-moi, purifie-moi, transforme-moi, revêt-moi de l'habit de ta grâce et donne-moi de m'approcher de ta présence. Et accorde-moi même la grâce de la ressentir, mais pas parce que je cours après des sentiments, mais tout simplement parce que ta présence est précieuse. Et puis Seigneur, en ce temps de Pentecôte, puissions-nous grandir à l'idée que tu es en effet notre Père et que tu nous offres l'adoption filiale. Seigneur, c'est grandiose et je ne pense pas qu'aucun nous le réalise. Mais combien, Seigneur, nous te rendons grâce de cela et te demandons de te révéler de plus en plus à nous, afin que nous grandissions dans notre confiance en toi, que nous grandissions dans notre démarche de foi reposant sur ce que tu as posé dans la réalité et dans les textes qui nous le disent. Et donne-nous, Seigneur, ainsi d'aller de l'avant avec l'assurance de ta présence. Et puis, Seigneur, peut-être j'ai vraiment un long chemin à faire. Peut-être même que je n'ai jamais vraiment saisi l'Évangile. Peut-être même, Seigneur, je me suis toujours laissé à penser que j'étais un chrétien parce que je faisais un certain nombre de choses et aux yeux des autres, bien. Je cherchais à me donner un nom, peut-être je cherchais même à gagner ta faveur. Et on pourrait dire que ce n'est pas mauvais en soi, sauf si c'est pour passer à côté de la réalité de l'Évangile qui va au droit de mon cœur, au plus profond de mon cœur, Alors Seigneur, si tel est le cas, donne-moi de te voir, de te recevoir, de te donner la totalité de mon être, et de voir ton esprit commencer à changer mon cœur et mes pensées et mon style de vie. Et quand tout cela, tu sois glorifié. Seigneur, pour tout ce qu'on a évoqué, nous te disons notre reconnaissance. Et pour tout ce qu'on n'a pas évoqué, nous te disons notre reconnaissance, parce que tu es un Père remarquable, extraordinaire. Tu es notre Dieu, notre Père. Alors merci pour cela. Et sois avec nous, accompagne-nous, conduis-nous, fortifie-nous. Nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus.